Donc je vais essayer de ne pas vous prendre en otage trop longtemps et de tenir des propos qui sont un peu mélangés aujourd'hui, dans la mesure où il y a cette espèce de double casquette, à la fois de quelqu'un qui a conduit quelques recherches sur des thématiques curriculaires et qui a, de manière tout à fait déraisonnable, participé à la rédaction d'une partie des projets de programme du CSP, le cycle 4 en particulier. Vous avez bien compris ce matin pourquoi c'était tout à fait déraisonnable. L'exposé un peu bizarre à mes propres yeux, mais peut-être aussi à vos oreilles, va être d'essayer d'articuler ensemble des résultats très très généraux d'une recherche récente sur le soutien des apprentissages, et puis de ce que peut signifier l'idée d'un socle commun mitonné à la sauce curriculaire. Mon présupposé, si vous voulez, est de ne pas partir de la question du curriculum, puisque je vais néanmoins y arriver, mais de partir de ce travail que nous avons conduit dans le cadre du centre Alain Savary de l'Institut français d'éducation, il faut le nommer, et avec le concours du CGET, qui auparavant était l'ACCÉ, qui s'est rebaptisé en cours de route, et qui est donc le Commissariat général à l'égalité des territoires, qui nous a donné quelques modestes mais néanmoins intéressants moyens pour faire ce travail. L'idée de cette recherche était qu'est-ce qui soutient les élèves, avec comme présupposé que nous ne nous intéressions pas aux dispositifs de soutien, mais que nous regardions ce qui soutenait les élèves indépendamment des dispositifs ou grâce aux dispositifs, avec l'idée qu'après tout, il ne suffit pas de baptiser un dispositif de soutien pour qu'il soutienne véritablement. C'est ça qui était notre présupposé de recherche, et vous aurez le rapport bientôt. À côté de l'alias sur la table de nuit dont a parlé Michel Dussault, si vous avez une autre table de nuit, vous pourrez regarder le rapport. Il y a peut-être une autre personne à la table de nuit, enfin bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. Voilà, le plan que je vous propose, ben, c'est de dire deux ou trois choses, mais véritablement, j'ai un peu honte du survol, mais bon, c'est la loi du genre sur ce qui soutient les élèves, de faire quelques incursions ensuite sur le rapport entre les programmes et les curriculums, où ça va recouper un peu ce qu'a dit Michel Develay ce matin, mais je crois dans une perspective complémentaire. Et puis de m'arrêter un peu sur ce que c'est les programmes curriculaires de cycle, avec, de mon point de vue, ce que ça exige de la part des enseignants, des équipes, des établissements, etc. Voilà. Alors, un des résultats, je crois, de notre travail, c'est l'idée que si l'on veut parler de ce qui soutient les élèves, il faut, comme on le dit dans notre vocabulaire atroce, déglobaliser la question des difficultés, des réussites, des soutiens. L'idée qu'il puisse y avoir des difficultés en général, des réussites en général ou des soutiens, est une idée à laquelle il faut sans doute renoncer si on veut être sérieux. Les difficultés sont d'ordre tout à fait différent, les réussites aussi, les soutiens aussi. Par exemple, pour parler de la partie de l'enquête que j'ai conduite moi-même dans une structure de retour à l'école qui s'appelle les micro-lycées dans la périphérie parisienne, à l'intérieur du même établissement, on voit des élèves que nous appelons des décrocheurs paradoxaux, par exemple, c'est-à-dire des élèves qui avaient absolument tout pour faire une scolarité normale, mais qui ont connu des accidents de vie, et qui n'ont pas procédé au bon alignement des planètes au moment où ils auraient dû être dans l'axe que l'école préconise comme étant le bon, et qui donc sont amenés à sortir de l'école, à vivre des expériences intermédiaires parallèles, mais finalement, les forces de rappel étaient telles qu'ils sont revenus, et qu'en général, ils ont des scolarités réussies avec juste 3 ou 4 ans de plus que ce que la norme leur demande. Mais à côté de ça, il y a aussi des décrocheurs qui ont été décrocheurs bien auparavant, pour des raisons qui tiennent à ce qu'on appelle, je ne reviens pas sur l'expression parce qu'elle mériterait critique, elle aussi des lacunes, des difficultés, et pour lesquelles le cas de figure est complètement différent. Autant pour les premiers, par exemple, et là on passe à la question des soutiens, nos fameux décrocheurs paradoxaux, pour peu qu'ils tombent sur une institution bienveillante, comme on dit aujourd'hui, qui leur redonne de l'estime de soi, plus exactement, qui continuent à leur donner l'estime de soi qu'ils avaient très largement reconstruite avant de refrapper à la porte de l'établissement, ils trouvent les ressources et les dispositions, pour parler comme les vrais sociologues, qu'ils avaient déjà et qui leur permettent de valider les attentes de l'école. C'est beaucoup plus compliqué pour des élèves qui ont accumulé dans leur scolarité des difficultés pour lesquelles des remédiations importantes s'imposent. Et du coup, les réussites, si je prends le cas de cet établissement, on pourrait le dire pour d'autres, les réussites ne sont pas les mêmes selon que ces élèves, par exemple, sont après la seconde, puisque c'est le niveau d'accueil de ces établissements, orientés en premier STMG, qui est d'ailleurs la classe qui réussit le mieux à ces décrocheurs. En revanche, les décrocheurs paradoxaux réussissent mieux dans le secondaire général, puisqu'il y a une série ES et une série L, étant entendu qu'ils peuvent refaire fructifier des constructions d'apprentissage qu'ils avaient déjà opérées auparavant. Donc, sur ces simples cas, mais j'ai bien conscience de la légèreté et de la superficialité de mes propos, mais ça pourrait être élargi. Il y a, selon nous, nécessité à ne pas proposer des dispositifs de soutien dans l'absolu, mais avoir des dispositifs de soutien qui reposent sur des diagnostics assez sérieux de ce que sont les difficultés réelles des élèves et les types de réussite qu'on peut leur proposer, dont ils ont envie eux-mêmes. Dans le cas des établissements un peu expérimentaux, comme le sont les micro-lycées, c'est relativement facilité parce qu'il y a un travail d'équipe. Hein, on voit, et c'est une notion qui a déjà été évoquée ce matin, comment c'est absolument nécessaire pour, même s'il y a du tutorat individuel, de la référence, comme ça s'appelle dans cet établissement, des nécessités d'analyser en permanence, collectivement, sur la durée, sur plusieurs années, et là on est déjà un peu introduit à l'idée de cycle, hein, sur laquelle je terminerai, les processus d'apprentissage, voire de non-apprentissage ou d'apprentissage insuffisant des élèves. Alors, là je vais vous gratifier de notre métaphysique théorique. Essentiellement Elisabeth Bottier à moi, puisque c'est nous qui sommes porteurs de ces notions dans l'équipe. Il nous semble que, quelles que soient les trajectoires des élèves, quelle que soit leur manière d'apprendre, il y a toujours dans les apprentissages l'engagement de ce que nous appelons trois registres d'apprentissage. Et je vais essayer, autant que faire se peut dans le laps de temps, de vous dire un peu dans quel esprit nous les travaillons, avec l'idée que ces registres, toujours présents, enfin, qui structurent selon nous les apprentissages à l'école, et j'insiste bien à l'école, on n'apprend pas qu'à l'école, mais il y a une manière spécifique d'apprendre à l'école qu'il est difficile de contourner si on veut y réussir. Ces registres supposent des logiques de mobilisation qui peuvent être assez différentes d'une personne à l'autre, voire chez la même personne au long de son propre cursus scolaire. Alors, c'est assez facile. Il y a le scolaire. Alors, je vous renvoie là à ce qu'ont pu être les travaux d'un certain nombre d'historiens, de sociologues du curriculum ou de didacticiens qui nous expliquent en quoi il y a une particularité d'apprentissage à l'école. Une des caractéristiques principales de l'école, c'est que les élèves y sont protégés de la dangerosité du monde extérieur. C'est paradoxal parce que l'école est faite pour les y préparer, mais pendant tout un temps de la préparation, ils sont protégés. Si vous faites des erreurs de calcul dans les trajectoires des trains, il n'y aura pas une catastrophe ferroviaire. Voilà, éventuellement une mauvaise note ou le devoir à refaire. C'est des épreuves papier-crayon. Si vous trompez dans les robinets, vous n'inondez pas la classe. Voilà. Il y a un mode de protection difficile à comprendre d'ailleurs de la part d'élèves qui ont des visées instrumentales, qui voudraient bien que l'école apprenne des connaissances du monde réel. Et toute une grande difficulté, je crois, d'entrée et de maintien dans la forme scolaire est précisément de comprendre que l'école vous prépare à l'avenir en faisant des choses qui ne procèdent pas de la logique de l'avenir dans lequel vous vous trouverez. Alors, certaines socialisations familiales préparent beaucoup à ça, celle dans laquelle on pédagogise la vie des familles au quotidien et où tous les repas se passent en aimables devinettes qui ressemblent à des oraux de concours, où on peut déjà préparer certaines écoles prestigieuses, mais ça, c'est pas dans toutes les familles, c'est dans les nôtres, donc je passe. Alors, ce registre scolaire, il est lui-même, selon nous, et je livre l'hypothèse, évidemment, on n'aurait pas le temps de répondre, donc je vais gagner, à votre sagacité. Il y a un aspect qui est important pour nous, qui est un aspect cognitif. Voilà, à l'école, il y a des logiques d'apprentissage. Ces logiques d'apprentissage, elles ne sont pas quelconques. J'emprunterai volontiers à Max Weber la notion de l'égal rationnel. C'est-à-dire, l'école, dans nos pays, telle qu'elle est aujourd'hui, parce que lorsque je dis école ici, il faut bien voir que c'est une conjoncture, hein, sur 1, 2, 3 siècles. C'est une école dans laquelle, pour parler aussi comme Guy Vincent, on travaille à partir de règles impersonnelles. C'est-à-dire que si le maître se trompe en faisant une faute au tableau, l'élève a non seulement le droit, mais le devoir de lui dire « Maître, tu te trompes ou vous vous trompez ». Et le maître, sauf c'est vraiment un tyran, doit absolument lui-même souscrire aux règles de la grammaire et faire amende honorable et avaler le calice et la poussière de la craie jusqu'au bout en disant « Oui, je me suis trompé, je rectifie immédiatement ». S'il est malin, il dira, mais je l'ai fait pour voir si vous vous en rendiez compte. Vous connaissez la recette pédagogique, nous l'avons tous pratiquée. Il y a cette manière de connaître. Alors, nous n'avons pas procédé un inventaire exhaustif, mais le fait, par exemple, d'être capable de situer un événement dans une chaîne historique, le fait d'être capable de trouver des rapports entre causes et conséquences, etc. Il y a des manières de raisonner à l'école, d'induire, de déduire, etc., qui sont mises en place progressivement, qui d'ailleurs ne s'apprennent pas toutes à l'école, ce qui est bien des problèmes, mais qui sont néanmoins nécessaires, hein, c'est ce que certains appellent le curriculum transparent, pour arriver à valider les exercices et les épreuves, surtout, que l'école propose. À chaque fois, j'ai essayé de trouver l'idéal qui correspond à ça, l'idée qu'il y a un client idéal, pour parler comme Becker. L'élève idéal est méthodique. Et d'ailleurs, les enseignants se plaignent beaucoup que les élèves ne sont pas assez méthodiques. Et d'ailleurs, on leur fait des cours de méthode qui servent à peu près à rien quand ils sont hors sol, parce que malheureusement, la méthode, ça ne se fabrique pas à coup d'enseignement de méthode. Sinon, ça se saurait, et c'est là où c'est très compliqué. Les choses se compliquent encore dans la mesure où... Elle se complique en même temps, elle s'incarne, dans la mesure où il n'y a pas que des procédures, bien sûr, il faut encore des objets. Alors, nous appelons ça la sphère du culturel, si vous voulez, ou le disque du culturel, puisqu'on est en 2D. C'est les savoirs scolaires et non scolaires. Il y a des savoirs scolaires typiques. Y compris, comme l'ont montré des historiens comme Chervel, la grammaire, savoir élaborer à l'école avant même d'être élaboré dans le monde savant, des savoirs typiquement scolaires. Alors après, la dictée peut envahir la télévision et faire des dictées à des millions de personnes totalement masochistes à qui on propose des dictées infaisables. C'est véritablement un objet de caractère scolaire qui peut y compris faire de l'auto-allumage et ne céder à aucune des injonctions. Lorsqu'on dit qu'il faut arrêter de faire des dictées. Je parlais de Ferdinand Buisson, pas de ministre contemporain. Il y a des savoirs scolaires, mais aussi des savoirs de la culture qui sont dans le monde extérieur à l'école. Et là, d'ailleurs, c'est tout un paradoxe, puisque pour réussir ses études, il faut avoir une culture générale. Laquelle culture générale n'est pas forcément enseignée ni même formée à l'école. On sait comment, dans les dispositifs d'excellence ou les dispositifs de discrimination positive, très souvent, en tout cas au début, parce qu'après on en est un peu revenu, mais il y a eu des apports, des injections massives de culturel. On cite souvent la prépa Racaille d'Henri IV, les internats d'excellence dans lesquels, voilà, l'internat de Marly sur lequel j'ai travaillé, jumelé avec, parrainé par l'Orchestre de Paris, les gens viennent avec leurs instruments, etc. Les élèves n'y vont pas parce qu'ils ont fait la boum du lycée le soir, la veille, ça ne les intéresse pas du tout. Mais bon, il y a cette espèce d'obsession pour que, parce que ça va servir pour le grand oral de Sciences Po ou d'ailleurs, les élèves aient une culture générale importante. Avec cette caractéristique contemporaine dont j'emprunte la notion à Philippe Coulangeon, qui est un sociologue de la culture, où par rapport à une époque où il y avait une hiérarchie très grande des contenus culturels, aujourd'hui ça n'est plus le cas, il y a une relative mise à plat, sauf que les élèves doivent être néanmoins capables d'articuler, de hiérarchiser les savoirs culturels pour les saisir pertinemment au moment où il le faut. Et donc, dit-il, aujourd'hui, l'amateur éclairé, il est omnivore, hein, il est capable de faire lui-même son miel de tout ça. C'est ce qu'on attend des élèves. Les élèves doivent être des omnivores. On voit bien d'ailleurs comment, je pense, dans les disciplines artistiques, ce concept s'est enraciné avec l'idée de l'amateur éclairé. Hein, qui doit être capable, sur des contenus qui peuvent être plus ou moins prestigieux selon la hiérarchie ancienne, de se faire eux-mêmes des hiérarchies et des méthodes de mobilisation pertinentes. Et enfin, pour nous, un troisième ingrédient, ce qu'on appelle l'identité symbolique, alors je ne rentrerai pas dans le détail, qui est qu'il ne suffit pas d'avoir des procédés cognitifs, il ne suffit pas d'avoir des objets pour les faire travailler, il faut encore qu'il y ait un sujet qui mette tout ça en mouvement. Et ça suppose que les élèves aient une identité d'élève. Une des grandes difficultés, c'est toujours le même problème finalement, c'est de transformer les jeunes, les enfants et les jeunes en élèves. Alors sur le plan culturel, sur le plan cognitif, mais aussi sur le plan de leur identité. Il faut qu'ils acceptent d'être élèves, il faut qu'ils acceptent de se plier à des règles absolument invraisemblables vues du monde extérieur, lever le doigt pour parler, etc. etc. Ça commence très tôt. Et donner son avis sans que ce soit sous la forme lapidaire, je like, je like pas, en argumentant, en prenant la posture d'un sujet universel, mais néanmoins impliqué. Toutes ces constructions complexes qui font que quand vous êtes prof d'une discipline à dissertation et que les élèves vous disent est-ce qu'on a le droit de dire je dans une dissertation, vous réfléchissez un grand moment pour donner une réponse qui est de toute façon insatisfaisante parce que elle mélange des aspects qui sont liés à la fois à l'expressivité des personnes, mais aussi à l'idée que on parle un peu voilà sous l'aspect de l'éternité et pour un public universel qui n'est pas celui que vous avez devant vous. Donc tout ça est très compliqué pour nous et ça s'appelle l'école, voilà. Et il faut arriver à mettre tout ça ensemble. Et on voit que pour pas mal d'élèves, c'est assez difficile et que cela va intervenir dans leur logique de mobilisation des dispositifs qui leur sont fournis. Je vous en donne deux exemples simplement qui sont prélevés sur ce fameux micro-lycée. On interroge là les élèves sur les activités de caractère culturel qui leur sont proposées. Alors vous avez la réponse de Charlène qui, elle, est orientée en première STMG. Elle décrit les activités. Sinon, même il y a d'autres activités, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Bah, il y a du théâtre. Moi, j'en faisais l'année dernière, ça m'avait beaucoup plu. On rigole, l'ambiance est bien. Sinon, culture et méthode. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bah, il y a projet, il y a des projets de cinématographie. En culture et méthode, je dirais, c'est plus de l'aide pour les cours, dont rattrapage, maths, anglais, etc. Sinon, il y a un truc, ça s'appelle... En fait, ça change, en fait, on va dire, toutes les trois semaines après. Par exemple, s'amuser avec les figures de style. Comme ça, on apprend bien les figures de style, ça aide en français, c'est marrant. Je veux dire, ça se passe bien avec les profs. Bon, sinon, bien sûr, il y a les cours normaux. Donc, je crois qu'elle est assez emblématique. Elle aide beaucoup le sociologue à fabriquer ses catégories, parce qu'elle fait tout le travail pour nous. Il y a d'un côté le normal, et puis d'un côté le reste. Ce qui me rappelle un peu, et j'y viendrai tout à l'heure, le fait qu'il puisse y avoir des enseignements pratiques, ce qui suppose qu'il y a des enseignements théoriques. Personnellement, je suis assez inquiet de cette bipartition. J'espère qu'elle ne plongera pas les gens dans une perplexité paralysante. Donc là, le découpage que fait cette jeune femme, est un découpage qui ne correspond pas à l'intention de l'équipe éducative du micro-lycée, parce que au lieu d'intégrer la culture qui est donnée à la scolarité normale, il y a ce qui est fun, ce qui est cool, et on voit bien dans les descriptions qu'ils nous donnent que les éléments culturels permettent de déstresser, de se retrouver, de rigoler, ce qui est tout à fait sympathique, hein, mais qui ne va pas nécessairement réussir la jonction avec les deux autres registres concernés, même si le registre identitaire se trouve, au fond, le registre culturel est ici pas mal phagocyté par l'identité, puisque c'est un moment de respiration dans lequel on se retrouve. Verbatim ultra lapidaire pour le second, qui est sur une toute autre orbite. On a étudié le Barbier de Séville, et je trouve que c'est génial, parce que c'est là qu'on voit qu'en français, c'est utile. Pas que pour l'écriture, pour l'analyse, on fait des textes. C'est là que c'est super. Bon, autre registre, là, il y a manifestement une jonction qui s'opère avec les autres. Là, c'est tellement caricatural que c'est un peu facile, mais il nous semble que ça, c'est un instrument qui nous a permis de nous orienter dans la façon dont on voyait les lycéens réagir, s'organiser, et dont on suppose qu'ils mobilisent les dispositifs qui leur sont offerts. Étant entendu qu'une des caractéristiques de ces structures un peu dérogatoires, c'est qu'elles multiplient les registres avec l'idée, l'intuition finalement, que ça se joue sur beaucoup d'endroits, qu'il faut un clavier très important pour que les élèves s'y retrouvent, mais sans avoir toujours le mode d'emploi qui leur permet de s'y repérer, et en laissant d'une certaine manière la charge de savoir comment les articuler, ce qui est loin d'être évident. Cela dit, nous ne savons pas nous-mêmes comment il faudrait faire. Nous sommes un peu plus malins que les équipes éducatives. Alors, un quart d'heure, c'est bon. Je voudrais maintenant essayer de voir en quoi, en faisant une espèce de grand saut, en quoi le fait de construire les programmes dans une perspective curriculaire est peut-être plus à même de capter ces registres de l'apprentissage et d'aider et de soutenir les élèves que les écritures classiques en termes de discipline. Et il me semble, et je souscris évidemment, sinon je n'aurais pas essayé de tenir la plume ou le clavier sur le thème, que l'orientation choisie était intéressante. La première chose, c'est parce que le fait de réfléchir en termes curriculaires, c'est une façon, pour employer cet horrible mot des sociologues, mais vous savez que c'est leur job, de dénaturaliser les disciplines, en montrant que les disciplines sont des construits sociaux, que c'est aussi des processus, et que ça se fait aussi dans le cadre d'une institution. Là, je vais piller des définitions qui sont celles d'une personne qui a beaucoup travaillé à l'INRP à l'époque et qui a beaucoup fait pour accréditer en France une perspective curriculaire, qui à l'origine est une perspective anglo-saxonne. Hein. Forquin est quelqu'un qui est allé lire les travaux anglo-saxons, qui les a traduits et qui nous a rendus accessibles. Et vraiment, notre dette à son égard est immense, parce qu'il nous permet, je crois, de penser des choses qui ne l'étaient pas jusque-là dans le cadre classique de la sociologie française, voire continentale. Donc, pris dans son sens le plus courant, le terme du curriculum désigne généralement l'ensemble de ce qui est censé être enseigné, de ce qui est censé être appris. Nous retrouvons là des choses qui ont été dites ce matin. C'est pas parce que c'est au programme que ça l'est. Donc le curriculum, lui, va s'intéresser à ce qui est vraiment appris ou pas. Si vous le souhaitez, si l'IFE en est d'accord, je vois que certains jouent de l'appareil photo. Moi, je vous donne le diaporama sans problème et ça vous évitera d'avoir... Voilà, bon, bah, très bien, donc je vous le donne. Un curriculum, c'est un programme d'études, on disait autrefois un plan d'études, ou un programme de formation organisé dans le cadre et sous le contrôle d'une institution d'enseignement. Donc là, il y a deux aspects. Hein. C'est une institution qui le fait, donc ça n'est jamais quelque chose qui relèverait de la dynamique d'une discipline unique en tant que telle. Il y a toujours l'idée d'un construit à l'échelle de l'institution, ce que peuvent perdre de vue les enseignants individuels. Et j'ai été enseignant de lycée et je crois que je n'avais aucune idée quand j'étais enseignant de lycée de la manière dont tout ça s'était construit, de la manière dont le public d'élèves pour lequel je travaillais avait été déjà désigné, calibré, voilà, au moins depuis Victor Cousin en ce qui concerne ma discipline, dont d'ailleurs le préambule était toujours en tête des programmes que j'enseignais. Mais moi, j'avais l'impression que, voilà, j'enseignais la philosophie, en fait, tout était dans Socrate, alors que pas du tout, c'était largement dans la Troisième République, avec une manière de Socrate fonctionnaire, voilà, hein, comme disait l'autre. Alors, si on détaille un petit peu, il y a une construction. La notion de curriculum suppose ainsi premièrement l'idée d'une pluralité organisée d'objets enseignables. Tout curriculum comporte une dimension systémique. Il comprend et véhicule nécessairement des contenus, savoir, représentation, valeur, mais il constitue lui-même une forme, une mise en forme, mise en cohérence ou mise en système de ces contenus. Et c'est là, je crois, où ça commence à se déchirer de la discipline, hein, dans la mesure où c'est cette dimension systémique qui est introduite, avec, par exemple, l'idée qu'il y a des savoirs, des représentations, des valeurs. Si on lit ce que nous disent les historiens des disciplines, je pense à André Chervel, par exemple, il vous dit, voilà, par exemple, à un moment donné, dans les programmes, on a enseigné le stoïcisme, philosophie de l'Antiquité, très bien. Sauf, nous dit-il, que le stoïcisme qu'on enseigne, c'est un stoïcisme christianisé. C'est un stoïcisme dans lequel on voit que, à des fins d'édification, on a tiré les auteurs de l'Antiquité du côté de quelqu'un qui s'oriente vers un monothéisme, vers une espèce de morale, etc., etc., et qui préfigure très largement les cadres chrétiens. Bon. Est-ce que c'est ça les stoïciens ? Alors, est-ce qu'il y a des vrais quelle est la vérité des stoïciens ? Évidemment, c'est toujours des débats. Mais il est très clair que la construction des programmes va chercher dans un réservoir extrêmement important des éléments en nombre très limité qu'elle met ensemble dans une perspective qui est la sienne et qui n'est pas celle des disciplines ou des savoirs savants qui ont été élaborés à l'époque et qui n'avaient aucune idée de ce qu'allait être le christianisme, et par définition, je dirais. Donc ça, les historiens sont précieux pour ça, parce qu'ils nous montrent ce travail de sélection, d'élimination, de reconfiguration des savoirs, et des savoirs savants en l'occurrence, qui finissent par devenir des disciplines, mais qui sont tellement habituelles dans les programmes qu'on les a naturalisées, qu'on a oublié d'où ça venait, et qu'on a oublié que les stoïciens n'étaient pas forcément chrétiens, et qu'on peut avoir des lectures d'eux-mêmes qui ne sont pas du tout celles qu'on a aujourd'hui. Alors après, ça relève du débat des exégètes, des historiens de la philosophie, mais je crois que ce cas que je prends pourrait être multiplié. Bruno Pousset nous montre comment la dissertation est née à un moment donné, à la fin du 19e, début du 20e siècle. Nous avons l'impression aujourd'hui que c'est la forme canonique, et d'ailleurs elle est aujourd'hui, s'il n'y en a pas dans un concours, c'est pas un vrai concours, y compris pour les concours de gens, je pensais au CPE à l'époque, qui n'écriront jamais dans leur exercice professionnel, alors peut-être qu'il faudrait, mais en tout cas c'est pas leur... Oui, ils n'apprendront jamais les élèves à écrire, mais il fallait qu'il y ait une dissertation. On voyait bien d'ailleurs que dans le concours de CPE, auquel j'ai un peu participé à l'époque pour préparer séparer des gens. Certains avaient des types de compétences parce qu'ils avaient déjà exercé les fonctions qui n'arrivaient absolument pas à mobiliser dans la dissertation, et l'inverse. Donc il y a là des formes scolaires accréditées, hein, dont nous finissons par croire qu'elles sont les seuls moyens d'attester, de construire, de valider des compétences, mais qui s'enracinent dans une histoire dans laquelle l'écrit a pris à un moment donné une certaine tournure. D'ailleurs, à l'époque où la dissertation apparaît, comme le montre bien Bruno Poussé, elle est plutôt émancipatrice par rapport à des exercices d'ampliation, de répétition de contenu de leçons, où elle introduit un ferment critique, etc. etc. Donc tout ça est assez compliqué, mais si on se met à accepter cette plongée dans l'histoire, je crois que ça aide à comprendre qu'il y a donc des systèmes de contenu, mais aussi des formes de mise en système, des manières de raisonner à l'école, par exemple, qui ne sont pas quelconques. L'autre idée sur laquelle incite Forquin, c'est l'idée qu'il y a un processus. Alors ça, je crois que ça boucle bien avec ce que disait Michel Lussault ce matin, et sa volonté, enfin, l'impulsion qui a été la sienne pour faire en sorte que les programmes soient écrits du point de vue des processus d'apprentissage des élèves, et pas du point de vue de la logique interne des disciplines. Et de mon point de vue, la notion de curriculum nous offre des instruments pour arriver à sortir de l'idée d'une cohérence interne des disciplines, laquelle d'ailleurs on peut montrer que c'est une cohérence historique, un équilibrage momentané, bien entendu. Hein, les travaux de Cooper, qu'a traduit Forquin, nous montrent que, par exemple, pourquoi les mathématiques sous telle forme se sont développées dans les universités britanniques à un moment donné, les mathématiques plutôt appliquées et pas les mathématiques pures, parce qu'il y avait derrière un lobby informatique des intérêts industriels, voilà, c'est la vraie vie, je dirais, mais qui finit par influencer les curriculums universitaires et derrière, eh bien, la création de postes, la nature des thèses qui sont produites, les bouquins qui sont achetés par la bibliothèque, c'est-à-dire toutes sortes d'éléments matériels qui cadrent, hein, très très fortement ce que deviennent les disciplines en dur, hein, telles qu'elles sont incarnées dans la réalité. Donc les processus, hein, nous dit Forquin avec cette forme, cette phrase très dure, je crois, en fait, très très forte, une liste de questions figurant au programme ne constitue pas un curriculum parce qu'elle ne prend pas en considération l'ordre de progression des apprentissages, puisqu'un curriculum, c'est non seulement ce qui vous dit si vous devez enseigner les mathématiques, mais c'est aussi ce qui vous dit combien d'heures vous devez les enseigner selon les séries, avec quel coefficient, combien de CTS si vous êtes à la fac, etc. C'est-à-dire qu'il y a des choix extrêmement importants qui ne relèvent pas de la petite musique interne de la discipline, mais qui relèvent vraiment d'une visée, hein, de construction sociale. Élément, voilà, que j'ai déjà annoncé, c'est que ça doit aussi être dans une institution. Un curriculum correspond normalement à quelque chose de prescrit, de construit institutionnellement, ce qui doit, de mon point de vue, nous arracher à l'illusion que la seule institution serait la franco-ancienne ou l'association des professeurs de biologie et géologie qui veillerait sur l'homogénéité interne de la discipline. Elles-mêmes sont évidemment traversées par des visées institutionnelles. Je vais essayer d'aller un peu vite là-dessus pour ne pas être trop long. Vous aviez à peine échappé à nos histoires de registre que je vais y revenir, au sens où dans notre analyse, une des difficultés pour les élèves, c'est que non seulement le cognitif, le culturel et l'identitaire doivent être sans arrêt en équilibre. Un élève qui, par exemple, penserait que ce qu'on lui demande, c'est d'affirmer son identité, mais qui refuserait de l'inscrire dans des procédures cognitives et sur des objets culturels qui appartiennent au patrimoine de l'humanité, est un élève qui va se faire taxer, voilà, d'expressionnisme exacerbé, dans des appréciations plus professorales dans la marge. On lira argumente, etc. etc. Donc, et au contraire, un élève qui ne déroulerait que des connaissances de manière passive, on lui dirait, mais enfin, il faut s'engager, etc. Donc cet équilibre est présupposé. Et là où les choses sont un peu plus compliquées pour nous, c'est que dans ces registres, il y a toujours des régimes différents. Il y a toujours un régime, alors le terme n'est pas très heureux, on n'a pas trouvé mieux, il y a toujours un régime majeur, un régime mineur. Par exemple, dans le régime cognitif, eh bien, on peut soit se centrer sur les procédures, c'est-à-dire qu'on va apprendre à faire des choses, à les répéter. On peut regarder les devoirs du soir comme étant le moment où on va appliquer des procédures Oui, sauf qu'il y a des devoirs qui demandent autre chose que l'application de procédures qui sont des devoirs explorateurs ou des devoirs qu'on donne parce qu'on n'a pas fini le cours. Enfin bon, le spectre des devoirs, malgré là aussi l'unicité apparente du terme devoir, est plus large que cela. Et où il va falloir réfléchir dans une démarche de problème pour dire les choses rapides. Si l'on regarde l'aspect culturel, les Allemands ont un avantage sur nous, c'est qu'ils ont deux mots pour dire culture et que c'est bien utile parce qu'il y a un aspect patrimonial de transmission qui est ce qui ressemble le plus à notre mot, le terme de Kultur. Mais ils ont aussi le terme de Bildung qui implique la formation. Et en effet, la culture, ça peut être soit, comme le disait Nietzsche avec les trois métamorphoses, soit vous êtes le chameau, soit vous êtes le lion. Voilà, le chameau, il est obligé dans un premier temps de prendre tout sur son dos. Le lion, après, il va se défendre, etc. Je crois qu'en effet, les processus d'acculturation obéissent à cette double injonction. Il y a du patrimonial, il y a du formatif. Et nous pensons, puisque ça a été dit ce matin, les élèves qui sont plutôt dans la tâche et pas dans l'activité sont plutôt du côté procédural ou du côté patrimonial, du côté problématique ou du côté de la formation pour les autres. La grande difficulté pour eux, c'est qu'au fur et à mesure du cursus, ces exigences changent. Il y a des changements de contrat didactique et les élèves, comme là je crois largement et de manière convaincante montré mon collègue Stéphane Bonnery, les élèves qui ont des difficultés, notamment lors du passage du primaire au secondaire, sont des élèves qui vivent sur d'anciens contrats, qui a donné satisfaction à l'époque, où ils étaient loyaux avec le système, où ils avaient des bonnes notes, ils étaient gentils, les maîtres et les maîtresses aussi. On leur demande autre chose. Autrefois ils montraient, désormais il faut démontrer. Et le saut est tout à fait important. Il n'est pas sûr qu'ils soient accompagnés. Je crois que c'est justement l'intérêt de la question des cycles, en tout cas sur le papier. Et là, dans les cycles, se joue précisément la question des transformations de régime de registre. Il nous semble que cet outil, il aide à comprendre ça. C'est que les registres de l'apprentissage, ils sont en évolution permanente et qu'on passe toujours, au fond, quand vous avez acquis une procédure, au début, ça a été très difficile. La correspondance graphophonématique, au début, c'était une procédure que vous n'aviez pas. Le jour où vous l'avez, elle doit vous servir à autre chose. Et le jour où vous avez fait cette autre chose, ça doit encore vous servir à autre chose qui est d'un niveau qui est plus exigeant en général, en termes de l'abstraction, en termes de la plus grande généricité, parce que je crois que ça, c'est une des lois de notre curriculum. Le curriculum est organisé en fonction d'une généricité croissante dans les apprentissages, ce que beaucoup d'élèves ont du mal à admettre. C'est pareil, ah non, je reviens en arrière, c'est pareil sur le plan identitaire. Une chose est d'être le sujet empirique que vous êtes, autre chose est de devenir le sujet épistémique, hein, toujours plus réflexif que vous devez être. Et là, nous retrouvons ces questions de jeu d'auteur en particulier dont je parlais précédemment. Eh bien, oui, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des élèves dans le système qui vont avoir des positions plutôt fixistes. Hein, c'est mon aspect darwinien, là, qui vont avoir des positions plutôt fixistes, alors que d'autres vont comprendre que la règle du système, c'est cette évolutivité. On peut lire à travers ça, d'ailleurs, je crois, la question genrée des apprentissages. Hein, je ne vais pas insister là-dessus aujourd'hui, c'est un autre débat, mais les différentes manières qu'on apprend les filles et les garçons font que les filles performent dans le système à un certain niveau d'exigence des régimes de registre. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas capables d'arriver aux autres niveaux, mais leur socialisation scolaire et non scolaire fait que elles peuvent être tout à fait excellentes à un certain niveau d'exigence, et que les garçons, en tout cas ceux qui ont survécu au secondaire général, parce que vous parlez de tous les autres qui sont dans les bacs pro et ailleurs, BEP, les garçons qu'on appelle parfois sous-réalisateurs vont, pour certains d'entre eux, comprendre que les qualités qui sont requises, qualités plus masculines dans notre curriculum, parce que le curriculum il est genré, voilà, je crois que c'est difficile de dire le contraire, vont se révéler meilleurs pour des raisons incompréhensibles de l'extérieur, mais qui deviennent compréhensibles, je crois, si on regarde qu'il y a ce bouger au sein des exigences. Alors, eh bien, les programmes curriculaires de cycle, ils sont, je crois, une opportunité pour prendre en compte ces questions, c'est en tout cas les hypothèses que je livre avec une grande imprudence devant vous. Je crois que ce sont des programmes qui sont écrits du point de vue des apprentissages, en tout cas c'est ce qui est revendiqué. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des établissements dans lesquels le curriculum n'est pas le même. Nous vivons sur l'illusion d'un curriculum unique. Et encore une fois, qu'est-ce qui nous persuade de l'illusion, nous enferme dans l'illusion du curriculum unique? C'est le fait que c'est dans les programmes. Passer à une optique curriculaire, c'est se dire les programmes sont une chose, mais allons voir ce que deviennent les programmes enseignés et allons voir ce que deviennent les programmes appris, pour autant qu'on est capable de le faire, et nous allons voir qu'il y a ce qu'on appelle parfois des curriculums d'établissement. C'est-à-dire que non seulement il y a des élèves qui configurent les registres d'une manière qui est la leur et qui les amènent dans la distillation fractionnée du système et de ses filières à tel endroit plutôt qu'à tel autre, mais ce phénomène-là se redouble à l'intérieur des établissements. Et nous savons aujourd'hui qu'il y a des établissements dans lesquels on n'enseigne pas la totalité du programme, dans lesquels on n'enseigne pas certaines parties du programme, parce que les enseignants d'un accord tacite ou explicite savent ou disent ou estiment qu'on ne peut pas enseigner ces questions-là avec les élèves que nous avons. Voilà. Donc là, la démarche curriculaire paraît plus pertinente. Et s'y intéresser, c'est essayer de voir à l'intérieur des cycles. Où sont les seuils? Qu'est-ce qui se passe entre le cycle 2, le cycle 3, le cycle 4? Comment on peut essayer d'enjamber ces seuils? Et quels sont les régimes qui sont en jeu? L'idée qu'il y ait des seuils, personnellement, ne me pose aucun problème. Les seuils font grandir. Que les élèves aient l'impression, et non seulement l'impression, mais la certitude vécue qu'ils ont franchi des étapes, c'est quelque chose qui est extrêmement grandissant pour eux. Une partie des élèves qui est désespérée au collège est une partie des élèves qui désespère de ne pas apprendre et ne pas grandir dans l'école alors qu'ils étaient convaincus d'avoir grandi dans l'école primaire. Il y a là quelque chose qui procède de l'amour déçu chez eux et pas du tout de l'inappétence à l'étude. Pourquoi n'auraient-ils pas de libido sciendi comme les autres? Donc ça, ce sont des phénomènes de seuil qui jouent. La question n'étant pas leur existence, mais la manière de les préparer. Sans doute les cycles. Dans la mesure où ils lissent les apprentissages avec, certes, avec des attendus de fin de cycle, et sans doute des repères, évidemment, année après année, mais je crois que l'idée du cycle, elle est plus large, elle correspond à ce que disait le collègue ce matin, c'est ce qu'il faut sauter à 1,20 m le 2 février. Alors, je ne sais plus si c'était le 2 février, j'ai un peu oublié la date, mais je crois que ça ne change rien à la teneur du propos. Oui, c'est une question qui se pose tout à fait. Sans être chronobiologiste, on voit bien que les élèves, à un certain moment de leur vie, en tout cas, selon qu'ils sont du début ou de la fin de l'année, ça crée des sacrées différences pour eux dans la manière d'assimiler des notions, alors que nous imaginons que l'année est homogène pour tout le monde. On peut espérer que la question des cycles aiderait, sans doute pas de façon magique, mais en tout cas à aborder cette question. L'écriture des socles, Michel Lussault l'a dit ce matin, et mieux que je ne vais le dire, a été faite en trois volets pour ces raisons. Pour avoir été un peu, mais pas longtemps, après ils se sont acharnés sur le CSP, c'était très bien, mais harcelés par des journalistes qui voulaient savoir comment ça s'était passé, les dessous de l'histoire. À peu près aucun de ceux avec qui j'ai pu être en contact ne savait qu'il y avait trois volets de l'écriture des programmes. Tout le monde a lu le volet numéro 3, mais le volet numéro 1 sur les objectifs de chaque cycle, c'est-à-dire comment chaque cycle contribue à l'acquisition du socle, personne ne l'a lu. Le volet numéro 2, qui est consacré non pas à l'essentiel des disciplines, mais à ce que chaque discipline apporte d'essentiel au socle, ce qui est une démarche totalement inverse, n'a à peu près été lu par personne. Donc voilà, c'était un peu consternant, mais bon, de la réalité de l'élaboration de ces programmes, où, en effet, le volet numéro 3, qui est disciplinaire, mais disciplinaire soclé, pour employer cette expression horrible, mais sans doute pertinente, n'était que l'aboutissement, et d'une certaine manière, si les premiers et deuxièmes volets étaient acquis, on pourrait imaginer faire confiance à la culture professionnelle, au savoir-faire des enseignants, pour qu'ils soient capables de l'interpréter. Cela, une des conséquences, c'est que cela amène à revisiter les disciplines, et pas d'un point de vue théorique cette fois, et notamment la question de la pluridisciplinarité des compétences sur laquelle je vais m'arrêter. Moi, je crois qu'il est plus sage de parler de pluridisciplinarité que d'interdisciplinarité, parce que l'interdisciplinarité, même si ce n'est pas de la transdisciplinarité, mais ça implique quand même des points de vue extrêmement construits entre disciplines dont il n'est pas sûr qu'ils se mettent en place si facilement que ça. Peut-être que la pluridisciplinarité est un niveau plus modeste dans lequel on peut apprendre déjà à travailler ensemble sur des objectifs un peu partagés. Je m'appuie là sur des distinctions que je reprends vraiment à mon compte, qui sont celles de Bernard Ray, qui distingue trois types de compétences. Alors, on a toujours la manie des distinctions, mais je crois qu'elle est assez opératoire. Voilà. Il y a ce qu'il appelle les compétences élémentaires ou des procédures. Hein. On sait exécuter une action en réponse à un signal préétabli après entraînement. Ces compétences sont absolument nécessaires, fondamentales. Bernard Ray ne dit jamais qu'il faut éliminer pour passer d'abord au niveau le plus intelligent, va-t-on dire. Le problème, d'ailleurs, c'est que si vous n'avez pas ces compétences élémentaires, si elles ne sont pas procéduralisées, automatisées, vous allez perdre une énergie considérable pour passer à des compétences de niveau supérieur, dans lesquelles il faudra sans cesse que vous reconstruisiez pour vous les compétences élémentaires. Savoir compter par cœur, etc. Certes, c'est sans doute un peu contraignant, mais si vous êtes obligé de réapprendre et compter sur vos doigts, pour donner un exemple tout à fait absurde, au moment où vous allez faire un problème plus compliqué, vous n'y arriverez pas, vous allez perdre de l'énergie, du temps, et pendant ce temps-là, le curriculum cavale, comme son nom l'indique. Donc les compétences de second degré, c'est des compétences qui supposent une interprétation de la situation, c'est-à-dire qu'il y a des outils que vous connaissez, mais la tâche n'est pas connue. Et les compétences dites de troisième degré, c'est que vous devez choisir, combiner des procédures que vous connaissez, mais dans une tâche qui non seulement n'est pas connue, mais qui est complexe. C'est-à-dire qui va peut-être porter sur plusieurs leçons à la fois, avoir cet aspect de synthèse. Hein, ce que vous dites en histoire, là, faites un tableau de l'année 1900, etc. C'était pas dans la leçon sur le charbon, c'était pas dans la leçon sur la guerre, c'était dans toutes ces leçons, et il va falloir avoir ces compétences qui aujourd'hui sont requises dans les curriculums de nos écoles, que Bernstein appelait les sociétés ouvertes et les connaissances ouvertes, et qui sont véritablement les choses qui sont visées. Comme par hasard, ces trois niveaux sont ceux de l'enquête PISA. Les trois niveaux de l'enquête PISA, je ne sais pas si vous connaissez PISA, donc cette enquête internationale qui s'adresse aux enfants de 15 ans, etc., et jeunes de 15 ans. En tout cas, dans ce qui concerne la littératie, la maîtrise de la langue écrite, les formats qui sont proposés aux élèves ne sont pas des formats scolaires. C'est un mode d'emploi, c'est un article de journal, etc. Néanmoins, et c'est là où est un peu le piège, c'est que pour les traiter, il faut avoir des connaissances scolaires, je dirais des connaissances disciplinaires. Il ne s'agit pas du tout de les évacuer. Le problème est au contraire de retrouver les connaissances disciplinaires dans des tâches complexes. Et nos petits Français ont du mal. Ils sont très bons sur le premier niveau de compétences. Ils vont aller trouver des renseignements dans le texte. Ils sont capables de faire de la dénotation, voilà, d'aller les trouver. Ils sont très très bons. Ils sont relativement bons dans le niveau dans lequel on leur demande d'interpréter, mais dans un contexte relativement sécurisé, où il va falloir qu'ils donnent par exemple le point de vue de tel personnage, ils sont capables de le restituer, ils sont déjà beaucoup moins bons dans le troisième niveau, dans lequel on leur dit, par exemple, toi, avec tes propres mots, dis ce que tu penses d'eux. Non seulement ils sont moins bons, mais ce sont les épreuves, et ça a été remarqué depuis le début des épreuves PISA, et ça ne se dément pas, ce sont les épreuves dans lesquelles parmi les 60 et quelques pays de l'OCDE, je crois, enquêtés, ils répondent moins que les autres. Une espèce d'autocensure qui fait que là où il y a de la prise de risque, ils ne répondent pas. Alors, moi, je dirais que s'intéresser à la pluridisciplinarité et à la construction de ces compétences complexes, c'est pas, de mon point de vue, comme se laisse aller à le dire parfois la ministre, pour tromper l'ennui. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. D'ailleurs, on peut supposer que si on réussit, on s'ennuie plus. Donc, c'est pas du tout, c'est une conséquence, c'est pas une cause. Mais c'est au contraire pour construire ces compétences dont on voit que non seulement... dire c'est pas les branquignols qui montent ces usines-là, essaient de comprendre pourquoi l'école française a du mal aujourd'hui à construire ce type de compétences et a du mal à les construire dans un monde qui les requiert. C'est pas simplement qu'il y aurait un effet de mode, c'est que véritablement, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui requiert de plus en plus des compétences complexes. Alors, ceci, et je ne fais que donner quelques balises, a plusieurs conséquences de mon point de vue. C'est que il faut, je crois, pouvoir construire pour cela des collectifs. C'est pourquoi la dimension de l'établissement est problématique. Elle est problématique parce que, vous le savez comme moi, nous n'avons pas d'établissement qui soit dirigé d'un point de vue pédagogique, en tout cas dans le second degré, dans lequel la légitimité des chefs d'établissement pédagogique n'est pas reconnue pour l'instant, ou en tout cas à des difficultés d'organisation. Je crois que ça a d'ailleurs été un des points d'achoppement avec les syndicats qui voient une possibilité d'arbitraire, d'autoritarisme, etc. Donc il y a quand même la question de savoir comment ces collectifs sont pilotés, comment ils fonctionnent. Parce qu'il me paraît évident que si on décloisonne les années, c'est quand même aussi pour permettre une analyse collective, de collectifs professionnels, qui soient capables de mieux analyser les trajectoires des élèves. Je fais une parenthèse, mais qui en est à peine une. Nous traitons aujourd'hui l'individualisation des apprentissages, nous la traitons en aval. C'est-à-dire une fois que les élèves n'ont pas réussi, on leur donne toutes sortes de dispositifs de rattrapage, de soutien, et dans un millefeuille dont personne ne maîtrise plus la texture. Alors que, de mon point de vue, de notre point de vue, le mal est déjà fait. Toute la difficulté, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour individualiser les savoirs dans le cœur des apprentissages, au début, c'est-à-dire en amont, ou en tout cas dans le cadre de la classe, au lieu de dilapider l'argent public et l'énergie de beaucoup d'acteurs qui essaient à grands frais de remédier à des choses auxquelles on n'a pas su remédier dans un premier temps. Et pourquoi saurait-on plus dans le deuxième que dans le premier, alors que les enseignants ne sont plus là et que les autres ne sont même pas au courant forcément de ce qui a été fait dans la classe? Il y a là une espèce de construction un peu folle qui met des adultes d'accord entre eux sur les prérogatives, les précarés, les plates-bandes, mais qui ne s'intéressent que de très très loin à la réalité des apprentissages, à la façon dont il y a une diffraction des mêmes savoirs auxquels les élèves sont confrontés. Bon, ça, c'est une des thèses de notre labo. Il y a des rapports aux savoirs qui ne sont pas les mêmes, c'était dit ce matin. Donc je fais comme si je l'avais dit. Il y a ce que, pour parler comme Yves Rother, il y a des consciences disciplinaires. À savoir que pour les enseignants d'ailleurs, la discipline, ça signifie quelque chose pour eux-mêmes, mais c'est aussi intéressant du point de vue des élèves. Les élèves ont une vision de la discipline. Certains vont dire le français, en français ça cause, ça ne m'intéresse pas, on cause. Ils vont avoir des manières de cataloguer les disciplines. Et quel est le rapport avec la question du transfert? Lorsque j'étais enseignant de terminale il y a très très longtemps, à l'époque il y avait encore des terminales B, etc., lorsque j'avais des terminales B devenues ES, je leur disais, mais je comprends pas, vous n'arrivez pas à faire de dissertation de philo alors que vous êtes dans une discipline à quatre dissertations, sciences économiques et sociales, histoire, philo, français. Et dans ma naïveté, je pensais que la structure logique était la même et suffisait à être transférée d'un endroit dans l'autre. Mais pas du tout, parce que les objets culturels ne sont pas les mêmes et parce que les engagements identitaires ne sont pas les mêmes et que j'ignorais à l'époque tout à fait cette dimension-là et qu'il aurait fallu comprendre pourquoi pour tel élève ça avait du sens en histoire de disserter et pas en français ou ailleurs. Donc ces analyses-là, je crois qu'elles doivent se faire à l'échelle des établissements, dans un suivi de très près des élèves, avec des modes d'évaluation qui ne sont pas encore les nôtres vraiment, et qui sont seuls susceptibles d'organiser les transferts. Il n'y a pas de transfert automatique, hein. Je crois que ça c'est une fiction. Les détours et les transferts ne s'organisent que si on aide à les construire. Le deuxième aspect, c'est que pour ça suppose des collectifs d'apprentissage, mais ça a été dit ce matin, qu'ils soient des collectifs professionnels, et pas simplement des collectifs qui s'organisent par affinité collective, élective. Même s'il vaut mieux, évidemment, des collectifs dans lesquels les gens s'aiment bien. Mais on pourrait imaginer des gens qui se détestent et qui travaillent très bien, hein. La professionnalité, ça se maîtrise aussi à ça. Voilà. Deux mots. Moi, je pense que ces programmes constituent une révolution curriculaire dans notre tradition académique de programme. Cette révolution n'est pas forcément perçue, en tout cas elle est perçue, mais indirectement. Le lever de bouclier auquel elle donne lieu sont sans doute l'intuition de ce que ça remue dans les manières ordinaires de faire, mais je crois qu'elle n'est pas appréciée du point de vue de ce qu'on imagine que ça pourrait changer pour les apprentissages des élèves, et surtout pour les élèves qui n'arrivent pas à apprendre, puisque je ne dévoile pas un secret, mais notre système éducatif, toujours selon les enquêtes PISA, hein. Et si vous isolez les résultats des élèves qui sont en seconde et les résultats des élèves qui ne sont pas en seconde, les résultats des élèves qui sont en seconde à 15 ans sont du niveau de la Corée du Sud, de la Finlande, des pays nordiques, etc. Ce qui veut dire que notre école sait très bien faire pour les bons élèves, elle ne sait pas vraiment faire pour les autres élèves. Donc la révolution curriculaire, c'est cette idée-là, dont, de mon point de vue, elle peut être porteuse. La question qui est posée, c'est évidemment la question de la formation. Encore faudrait-il avoir les enseignants formés pour cela et les instituts de formation qui les forment, avec l'idée que pour le second degré, et je crois que je rejoins Michel Dussault, même si le premier degré est loin d'être exempt de remarques que l'on pourrait faire sur sa formation et sur ce qu'il est aujourd'hui, mais cela touche de plein fouet des identités professionnelles. Qui sont des identités disciplinaires, et ça boucle avec la question du curriculum, parce que ces identités professionnelles ont elles-mêmes été construites dans une institution qui était le petit lycée, et qui a été la manière historique dont nous avons organisé l'école moyenne en France, c'est-à-dire sur un modèle qui était celui des élites. À un moment où les élèves faisaient tout leur travail dans l'établissement, à un moment où ils étaient encadrés dans l'établissement, à un moment où les savoirs étaient moins exigeants en termes de régime majeur, et au moment même où les savoirs deviennent plus exigeants demande plus de transferts, demande plus d'investissements des personnes. On entre dans le système massifié des élèves qui sont loin d'avoir ces réquisites, pour lesquels le travail va être externalisé dans des officines ou parfois avec les parents, dans des psychodrames familiaux quotidiens dont il n'est pas certain que ça leur donne envie d'apprendre. Je vous remercie pour votre patience.